Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici donc à nouveau ensemble pour de nouvelles lectures en liberté. Et nous allons reprendre ce soir le texte de Jacques Josse, Café Rousseau.
Mon père, venez vite, Nitpi a eu un accident.
Nitpi. Le curé se remet l'image du braconnier en mémoire. Long et gris, tel un corbeau poussiéreux monté sur échasse, se déplaçant légèrement de biais, comme si une pointe d'hémiplégie avait un jour bloqué le côté gauche du bonhomme. Il marche d'un bon pas. Tony et le professeur l'accompagnent, le chien les devance de quelques mètres. Il se retourne sans cesse, pisse, flaire, s'arrête et repart aussi sec. L'endroit où a eu lieu l'accident n'est pas très éloigné.
Là-bas, dans le coude, à la sortie de Kerruau.
Inizan ne réussit pas à unir ses pensées, tout l'agace. Il grommelle. La soirée part à volo. Il ne maîtrise plus le moindre événement. De plus, depuis quelques minutes, un mauvais pressentiment monte en lui. Et si les deux fêlés avaient songé à l'appeler, lui, sans au préalable prévenir les secours? Il laissait tout à fait capable de ce genre de bourde. Il s'arrête une seconde, les toise l'un après l'autre et leur pose sèchement la question.
« Vous inquiétez pas, » répond le professeur. « On vous savait de veille chez Rousseau et c'est pour ça qu'on a rappliqué. Mais les pompiers sont au courant. »
Un peu soulagé par la réponse de Karoff, que tout le monde au bourg appelle « professeur », sans qu'il soit en possession du moindre diplôme, Karoff est manutentionnaire à mi-temps dans une fabrique de cajots pour chou-fleurs, mais il a la réputation de savoir réfléchir et de trouver toujours réponse à tout. Un peu soulagé, donc, le curé hâte le pas. Un kilomètre les sépare de Kerruau. La nuit les prend en remorque. Elle défait ses habits gris, ouvre les prunelles des bêtes, guide les voyageurs qui foncent tête baissée vers l'accident. Intrigué, debout derrière une barrière, un cheval les observe. Ne bronche pas, se contente du spectacle. Sans s'en douter, la mince colonne mobile qui ahane sur les routes défoncées du diocèse égaie sa solitude nocturne. Alors il retrousse ses lèvres, montre ses dents blanches à la lune et part d'un long rire intérieur et silencieux. Parvenu au sommet de la côte, juste avant d'entamer l'abrupte descente vers le hameau, le quatuor aperçoit un fouillis de lumière en bas. Des foires de voitures, des clignotements de gyrophares et quatre ou cinq jeux de warning nerveux et rapides. « Les flics sont sur place, » dit Tony. Inizan reste sombre. Il suit Micmac à la trace. Les deux autres, encombrés par leurs canapèches et leurs musettes ou brinque-balles des bouteilles qui s'entrechoquent, ont du mal à garder le contact. Peu après, le modeste équipage déboule néanmoins au grand complet dans le virage. Il est aussitôt absorbé par le groupe des palabreurs qui gesticulent au milieu des lumières. on a déplié une civière à roulettes. Elle attend sur le bas-côté de la route. Nitpi, la poitrine tassée contre le volant de sa 4L, regarde droit devant lui. La voiture a filé dans la douve, bloquée en bout de course par un poteau téléphonique. L'avant est embouti, mais le reste du véhicule semble intact. Nitpi, le visage grave, très pâle, seulement barré par un trait de fine moustache, continue de jeter ses pupilles sur une coulée de landes irréelles, à la périphérie d'un pays où le gibier festoie en permanence entre les herbes hautes et les roseaux, sur ces immenses étendues bleues qui relient les roches Douvres au Cap Fréhel. Inisant sans l'olibrius délivré des astreintes ordinaires, glissant son costume d'homme absent pour toujours dans une lessiveuse de pollen. Il a encore son chapeau casquette à plumes de bouvreuil sur la tête, et sur les épaules cette antique veste verte de braconnier qui a l'air de se moquer une dernière fois des curieux frustrés par cette trop banale sortie de piste. Tandis qu'Inisan rêve à demi, un des flics s'approche de Tony. Il le dévisage longuement. Le curé s'aperçoit alors que Tony a un œil au beurre noir. « Qui t'a fait ça ?» demande le flic. « Oh, chute de vélo !» répond Tony en se tournant vers le professeur qui hoche la tête en tirant fort sur sa gitane maïs. Le docteur s'avance à son tour. Il tape sur l'épaule du prêtre. « Shaw Nitpi a eu une crise cardiaque. La cinquième en 3 ans à ce stade, il n'y a pas de miracle. C'est inévitablement le chant du cygne. Quand cet oiseau-là décide d'attaquer, son bec menace, s'enfonce, va droit au but. Le contact avec la vie est rompu en un quart de tour. La 4L a zigzagué jusqu'ici, mais quand elle a cogné le poteau, Nitpi était déjà ailleurs. » Il se léchait les babines là-haut, attiré par les effluves venues des civets noirs, mijotant sur les plaques rutilantes des cuisines du paradis. Le docteur remue le nez. Il se tait, regardant l'air. Se passe une main sur la nuque et ajoute « Il y a 15 collets qui dorment pour toujours dans le coffre de la bagnole. » Inisan sourit. « Ah, ces poètes » murmure-t-il en son fort intérieur. La contrée en regorge, apparemment taciturne mais lyriques en diable dès qu'ils ouvrent les vannes à leur imaginaire balayé par des vents venus du creux des tripes ancestrales. Passant les Shetland, l'Irlande et les deux Cornouailles au galop, buvant gnôle sur gnôle, écrasant brouettes de sable, écumant de toute leur rage, tuant les sternes à la carabine avant d'ouvrir boutique ou buvette sur le large, non pas pour vendre des babioles aux gogos de passage, mais pour donner libre cours à leur délire délié d'hommes perdus en réclusion perpétuelle, coincés entre la falaise et la lande. Vers 1 heure du matin, Inisan s'en retourne. L'obscurité a englouti le cercle des palabreurs. Nitpi a été installé à l'arrière dans l'ambulance des pompiers et évacué sur l'hôpital de Paimpol. Le docteur suit en voiture. Il a embarqué Tony, Karoff, Micmac et tout le fatras des pêcheurs avec lui. À distance respectable, l'estafette des gendarmes ferme la marche. À cet instant, le maigre convoi funéraire doit se trouver à mi-chemin, quelque part entre Longloup et Plouézec. Le prêtre, profitant de la marée basse, a décidé de couper vers la plage. Il se sent mieux, presque serein, quoique impatient d'être rendu au presbytère. En solitude dans la salle, à genoux devant le grand crucifix noir, avec les visages des 1000 morts de sa vie sur le mur. Avec Saint-Évance, Téfaux, Salahin, Le Duf, Le Bihan, Nicodème, Briquire, et maintenant Nitpi, au volant de sa quatrelle, qui louvoie entre des arpents de brume pour rejoindre un morceau de purgatoire, en Sologne peut-être. Dans les environs boisés du silence, une bécasse et deux lièvres aux pattes ficelées ayant trouvé refuge dans sa gibecière céleste. Il lui tarde de convoquer le nouveau mort en prière. Pour lui, il entonnera un psaume à la Vierge. Saint François ouvrira sa tête au coq de bruyère et Saint Hervé gravira la montagne à reculons en chantant a cappella et à l'envers un cantique appris de la gueule même d'un loup. Inizan marche vite. Là-bas, les phares du Pan et des roches d'Ouvre continuent de croiser leurs doigts colorés sur les rites sombres de l'eau. On distingue d'autres lumières. Il les connaît. Ce sont celles qui délimitent les contours de Port-Cévennes, de l'Arc-Ouest, de l'île de Bréa. Il les laisse se perdre. Ne modifie pas sa trajectoire. Il se faufile entre les haies. Homme gris, en transit sur terre, avec sa foi vissée sur le fil rouge des tentations pour seul véhicule, et un bréviaire tremblotant d'élus affectés à la mise en abîme des écritures pour unique passeport.
La petite Marguerite est tombée. Singulière du bréviaire de l'abbé, trois pétales de scandale sur l'autel, indiscrète pâquerette, d'où vient-elle? Trois pétales de scandale sur l'autel, indiscrète pâquerette, d'où vient-elle? Dans l'enceinte sacro-sainte, qu'elle et moi, quelle affaire, oui ma chère, croyez-moi. La frivole fleur qui vole arrivant, contrebande des plaques-bandes du couvent. La frivole fleur qui vole arrivant, contrebande des plaques-bandes du couvent. Notre Père qui j'espère est aux cieux, n'ayez cure des murmures malicieux. La légère fleur peu chère ne vient pas de nonnettes, de cornettes en sabbat. La légère fleur peu chère ne vient pas de nonnettes, de cornettes en sabbat. Sachez diantre qu'un jour entre deux avait sur la pierre d'un calvaire il l'a trouvé et l'a mise, chose admise par le ciel, sans embâge dans les pages du missel. Et la mise, chose admise par le ciel, sans embâge dans les pages du missel. Que ces messes passent, cesse, je vous prie. Non, le prêtre n'est pas traître à Marie. Que personne ne soupçonne plus jamais la petite Marguerite à sa mère. Que personne ne soupçonne plus jamais la petite Marguerite à sa mère.
Et nous revoici donc après la pause musicale pour la suite du récit de Jacques Josse, Café Rousseau.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Le vent a tourné en fin de nuit et dès l'aube, c'est un ciel gris tourmenté, livré au saternoiement des longues brises d'ouest qui galopent au-dessus du bourg. Le curé se prépare à sortir. Ses humeurs restent vagabondes. Il lui suffit de scruter le beau visage austère du Christ noir figurant sur le crucifix de la salle pour que les fatigues accumulées lors de ses randonnées nocturnes s'estompent. « Je descends chez les morts, » dit-il. Chaque jour, il aime s'adresser ainsi, d'une voix ferme et résolue, au Christ noir qui, lui semble-t-il, hoche la tête en approuvant sa démarche. Il agit de même envers une modeste statuette en merisier qui reproduit les traits d'une vierge locale, sorte de sainte côtière dont on n'a retenu ni le nom ni l'époque. On se souvient vaguement d'une rumeur qui court à son sujet, une légende cousue de fil blanc dont on n'ose plus, même à l'abri des regards, suivre du doigt les grosses coutures. Disons, pour ne pas trop ouvrir la parenthèse, qu'elle vint ici en un vol mal assuré, progressant en rase-motte au-dessus des vagues, trouvée 3 jours après un naufrage, enroulée dans un nid de merles qui convenait tout à fait à sa taille. Le miracle eut lieu dans les broussailles, du côté de la pointe de la tour. Longtemps, on processionna, un dimanche par an, avec bannières et béquilles, dans les parages, et puis on laissa tomber, abandonnant le lieu aux ronces et l'apparition à l'histoire. Aujourd'hui, la réplique en bois a sa place réservée dans le couloir du presbytère. Le curé lui parle avec douceur. « Je descends chez les morts, Anna », répète-t-il. Il l'appelle Anna depuis toujours, sans réussir à démêler ce que ce prénom évoque en lui. Il chasse une mauvaise pensée d'un revers de main, admire à nouveau la lilliputienne, remonte son col et s'éloigne en claquant la porte derrière lui. Il est à peine 10 heures quand Inizan franchit la grille d'entrée du cimetière. Il s'arrête, écoute un instant les halètements continus des vagues qui déferlent à moins de 500 mètres. Il s'approche du porche de l'église, se signe, bifurque, se dirige vers le fond de l'enclos face à l'océan, au plus près des lancinantes litanies marines. Un jour, tout disparaîtra. La tempête finira par emporter la digue, les brise-lames et les sacs de sable entreposés de l'autre côté du mur. Il progresse lentement. Le gravier crisse sous ses pas. Au bout de l'allée centrale, le fossoyeur est déjà au travail. Il creuse, déblaye la terre, prépare le lit du mort de la nuit dernière. Demain, Nitpi sera inhumé là. Et tout comme ses congénères, il entendra la mer rouler jusqu'à lui en empruntant sous la plage des routes invisibles. Elles seront porteuses de secrets. De leur bouche, il apprendra l'endroit exact où sont couchés les péris en mer, le Bihan, l'Ochu, Marquier, le Sourd, ce dernier surtout. Son ancien ami reviendra peut-être jouer au dé avec lui. Il lui expliquera pourquoi lui et ses hommes, embarqués à bord de l'écume des jours, ont disparu sur ce chalutier flambant neuf, dans une mer étrangement plate, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, dans les courants des Éos, à proximité de l'île. Inizan flâne entre les tombes. Il remet un pot de fleurs à sa place. Se remémore un visage, un sourire. De loin, le fossoyeur l'aperçoit. Il le salue d'un simple signe de tête, un doigt posé sur la casquette. Il est aux 3/4 dans la fosse, pas loin des os et des planches pourries. Le buste droit, le béret à la main, arborant ce même air buté qui provoqua jadis la colère des pointilleuses grenouilles, l'abbé poursuit sa courte méditation. Il parcourt le jardin des endormis définitifs à son rythme, percevant les intimes bruissements qui montent du sous-sol, sa pensée ricoche. Ici, une fluxion de poitrine, là, un arrêt du cœur, là-bas, une crise d'apoplexie. Il écarte des murmures, des rameaux de pénitence. Peu à peu s'approche de telle ou telle sépulture. Là-dessous, par exemple, une femme boit des apéritifs en cachette. Elle s'adresse à son chat. Elle le malmène, le menace, dit qu'elle finira par l'étrangler s'il ne chasse pas les souris et les vipères qui glissent sur le plâtre moisi de la cuisine. Un peu plus loin, un soldat vérifie son fusil pour la 100e fois. Il a un visage charbonneux, avec enfoui dedans 2 yeux de fou. Cela fait 3 jours, et trois nuits qu'il arpente les mêmes couloirs enneigés. Il a l'impression de faire du surplace. La seule chose dont il est certain, c'est qu'il se trouve sur la commune de Fleury, dans la Meuse, et que l'aube sale du 21 février 1916 pointe sa gueule vérolée, là-bas, au bout d'une ancienne prairie, juste derrière les barbelés, entre lui et la neige. Il sort sa gourde, y puise un reste de force, s'avance encore quelques mètres, les lèvres ravagées par le givre et l'alcool. Il ne sait pas que dans moins de deux minutes, il ne restera plus rien de son corps. Anéanti, mitraillé, déchiqueté. Il n'a pas 30 ans. Il s'appelle Édouard Le R. Le curé est debout devant sa tombe. Machinalement, il bouge la tête. Ses yeux rencontrent alors la croix d'à côté, la croix, le dôme gravillonneux et la plaque. Robert Le R. 1934. 1978.
Une sale histoire, mon père.
Le curé sursaute. Pris dans la suie des mémoires, enroulé dans les draps du marbre, en train de voler des lambeaux de vie à la mort des autres, il n'a pas entendu le fossoyeur venir. Ils se retrouvent pourtant tous les deux côte à côte, près de la sépulture des L.E.R. Le fossoyeur a la casquette légèrement relevée, il s'éponge le front, tire un peu plus sur son mégot. Il a le visage long et anguleux que possèdent la plupart des maigres. Désignant la tombe d'un bref mouvement du menton, il ajoute « Ce soir-là, j'aidais mon père, la nuit était tombée. On creusait à l'eau debout quand on a entendu le coup de feu ricocher sur la flèche de l'église. » L'océan rabote toujours la digue. Le curé fixe l'inscription sur la pierre. L'autre se racle la gorge et continue. Une ou deux heures se sont passées, la nouvelle était bien sûr propagée. On s'est retrouvé à une quinzaine sous les réverbères du bourg. On a vu le convoi remonter. L'ambulance d'abord et puis le panier à salade, avec le R dedans, droit comme un I, les yeux rivés sur la nuque du conducteur. Inizan ne rêve plus. Un pouce sous le menton et l'index de la même main sur le nez, il réfléchit, s'obstine, dévisage le fossoyeur.
Mais passant le bourg, il ne se dérobait pas au regard des curieux. Non, non, pas du tout. Le R était ainsi. Il paraissait timide, réservé, presque maladroit parfois, mais jamais on ne l'a vu baisser les yeux.
Les mots précis de l'ouvreur du grand dortoir des morts laissent Inizan perplexe. Curé, passeur d'ombre, en charge de relier les hommes entre eux, et de plus livreur, délivreur d'extrême-onction à domicile, il ne se méprend pas sur l'étendue de son ministère. Une autre tâche lui incombe, qui est de renouer le contact entre les vivants et les morts. Mais ce rôle ne peut se tenir qu'à la condition expresse qu'on lui fasse don des clés, des secrets de chambre et des quelques huiles nécessaires pour actionner la belle mécanique des serrures. Ces dons qui naviguent entre paroles et non-dits ne peuvent provenir que des habitants du village. Chacun détient sa part de mémoire. Chacun œuvre à la transmettre, à la triturer entre deux verres de silence, à la maquiller aussi entre invention et mensonge, en enjolivant certains pans de réalité peu avouables. Depuis quatre décennies, seul le R reste absent de ses marelles de salive. On évite son nom. Ou alors on ouvre une bouche édentée, on ferme un œil, on plisse l'autre et on lâche quelques mots insignifiants. Le R, celui qui a tiré sur sa mère en 56. Avant de fermer son clapet, en jouant les muets de comptoir devant un fond pourpre de Bordeaux dépenaillé. Cette lecture est terminée pour ce soir et nous nous retrouverons donc demain. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.